Donc ce soir, nous continuons donc notre étude sur les relations humaines. Et attendez-vous ce soir, est-ce que c'est possible qu'il y ait un combat ce soir? Parce que l'ennemi a horreur d'une chose, c'est qu'on dévoile ses plans. Et ce soir, nous allons dévoiler les ruses du diable, mettre à jour comment il se sert des êtres humains pour les rendre malheureux et briser, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps, briser les relations. Briser ce qu'il y a de plus important. Donc, nous allons mettre tout ça à jour ce soir et attendez-vous à ce que ça soit sans doute un combat. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que l'ennemi essaye de nous attaquer par des flèches. Hein, on a vu la dernière fois les flèches qu'il nous envoie et les messages de la flèche. La flèche, c'est une chose. Le message de la flèche, c'est autre chose. Savoir ce que le message de la flèche nous dit à nous depuis qu'on est petit, et comment on interprète les flèches que nous recevons et le message que nous leur donnons, de façon à être toujours attaqué dans notre identité. Donc on a vu que ça représente un petit peu notre cœur, et on a besoin d'être entouré d'un bouclier, de l'amour de Dieu, agapé, hein, avec ce qu'on verra la prochaine fois, le pardon qui nous permet vraiment à chaque fois de repartir quand on a été touché. Et on a vu le puzzle, et c'est ce qu'on est en train de voir. On a vu notre identité en Christ, combien nous sommes cette nouvelle créature maintenant, et que notre identité, elle ne dépend plus de ce que les hommes ont pu dire sur nous, mais elle dépend de ce que Dieu dit sur nous. Et ça change tout, parce que le système de ce monde est basé sur des valeurs de ce monde, comme, par exemple, ta richesse, ta beauté, ce que tu es capable de faire, et c'est comme ça qu'on va définir ta valeur. Et on a vu combien ça, c'est monter une maison sur le sable, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Et on a vu que la vraie valeur, c'est celle que Dieu nous donne à travers sa parole. Tu es un enfant de Dieu. Et donc, tu as reçu cette identité en Christ. En Christ, tu es accepté. En Christ, tu as de la valeur. En Christ, tu as son appartenance. Tu ne seras plus jamais tout seul. On a vu que ces valeurs-là ne dépendent pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, de ce que nous réussissons ou de ce que nous ratons. Cette valeur-là, cette identité-là, ces valeurs-là viennent de ce que Christ a fait pour nous. Et nous, nous en bénéficions parce qu'un jour, nous avons accepté son sacrifice pour nous. Donc, c'est important d'avoir ce socle, cette identité en Christ qui va faire que nous sommes sur le roc, nous savons qui nous sommes. Et ça va nous aider énormément quand l'ennemi va se servir de nos proches pour nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Nous savons qui nous sommes. Et il nous faut être inébranlables. Il nous faut être sur ce roc de façon à ne pas vaciller quand la tempête va venir. La tempête est venue, les vents sont venus, mais la maison est restée sur le roc. On a besoin d'avoir cette identité en Christ. La semaine dernière, on a vu aussi les attentes que nous pouvions avoir envers nos proches. Des attentes irréalistes, mais aussi quelquefois inconscientes. Parce que ça vient de notre nature. Nous vivions sans Dieu. Et donc, nous avons été programmés pour vivre sans Dieu. Donc, on est arrivé dans ce monde et nos références, c'était nos parents. Nos références, c'était la fratrie. C'était les gens qui étaient en autorité. C'était ça, notre référence. Et nous avions besoin de leur plaire parce que nous nous sommes construits par rapport à ce qu'ils disaient de nous. Et donc, ça nous a amené à avoir des attentes envers nos proches, envers les êtres humains. Mais cet amour qu'on a besoin, cette reconnaissance qu'on a besoin auprès des êtres humains, elle n'est pas fiable parce que nous demandons à des êtres humains de nous donner quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas. Puisqu'ils ont besoin, et chacun de nous, nous avons besoin de cet amour de Dieu qui est notre ADN. Nous sommes nés dans le cœur de Dieu et dans le cœur de Dieu, nous avons cet ADN d'amour agapé. Un amour qui est... Ça va, Jeannette? Un amour qui est inconditionnel. Et c'est la différence avec les êtres humains. L'être humain, dans sa nature, ne peut pas aimer de façon inconditionnelle. Et pourtant, nous, on a été créés dans cet amour inconditionnel. Et nous recherchions inconsciemment cet amour inconditionnel. Sauf que nous étions branchés à la mauvaise source. Nous étions branchés sur la source des êtres humains. Et donc, la déception est grande. Et on a vu la semaine dernière que plus tu as d'attentes envers tes proches, plus tu vas ouvrir la porte de la déception. Donc, au final, ce que nous avons conclu la semaine dernière, c'est que nos attentes, il faut les mettre sur Christ. Et en avoir moins sur les êtres humains. Et ça veut dire quoi concrètement dans la vie de tous les jours? Ben, ça veut dire dans la vie de tous les jours d'aimer les gens comme ils sont. Et pas comme nous voudrions qu'ils soient. Et ça, c'est un sacré travail, hein, d'accepter les autres comme ils sont. Si on ne le fait pas, alors il y a point de bonheur sur cette terre envers les êtres humains. Il faut qu'on soit sage. Et quand la réponse n'est pas là parce que nous sommes déçus d'un être humain, la réponse, elle est auprès de Christ. Elle est dans notre refuge. On a vu que nous sommes ce petit garçon, cette petite fille qui avons grandi, mais le petit garçon, la petite fille, elle a juste besoin d'aller dans le refuge. Les bras de Dieu. Hein, je vous ai parlé de ce tableau de Rembrandt, hein, où nous avons le Père qui représente Dieu, qui est assis, et qui a le Fils prodigue, qui est assis à genoux à ses pieds, et il l'entoure de ses bras d'amour. Et c'est ce qu'on a besoin. Quand on est déçu par un proche, que ce soit notre mari, que ce soit notre femme, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, la consolation est auprès de Dieu. Amen. Et c'est là qu'on va se refaire une santé spirituelle et ne pas accabler nos proches, ce qui ne servira à rien, malheureusement. Donc, on en est là. Et ce soir, nous avons le troisième pilier qui est de résister aux offenses. On va voir ce soir que l'ennemi se sert de nos proches, pas des étrangers, de nos proches. Et on va voir la stratégie qu'il utilise. Il se sert de nos proches pour nous attaquer et nous faire mal. De façon à ce que ça fasse bien mal et qu'on en veuille à cette personne-là. Pour ce qui concerne les offenses, il faut partir de ce principe-là. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre me fait ou me dit. Mais, il manque un petit A. Mais je suis responsable de la manière dont je vais réagir. Nous ne sommes pas quelqu'un te met une claque, c'est pas de ta faute. Mais la manière dont tu vas réagir, ça par contre, c'est ta responsabilité. Gardez à l'esprit que nous sommes responsables de notre réaction. L'ennemi de notre âme veut détruire ce que nous avons de plus précieux sur cette terre, c'est-à-dire, bon, je le dis pour vous, mais essayez d'être un peu réactif, hein. L'amour, hein, ce qu'on a de plus précieux sur cette terre, c'est l'amour. Si vous avez quelque chose d'autre, dites-le moi. L'amour qui s'exprime à travers nos relations. Il faut bien exprimer l'amour, parce que l'amour, sinon, ça reste très, très, très virtuel. L'amour se concrétise où ? Dans nos relations, les uns avec les autres. Et pour cela, l'ennemi utilise une arme redoutable qu'on appelle l'offense. L'offense, c'est une parole ou une action qui nous semble, et là j'utilise le mot « semble », parce qu'en réalité, c'est notre grille de lecture qui va faire la différence. Pour nous, ça nous semble, pour d'autres, non. Donc, il faut toujours partir de ce principe-là. C'est mon analyse, c'est mon interprétation. Et souvent, dans les quiproquos, la personne va dire « Mais non, je t'ai jamais dit ça. Non, mais je t'ai pas parlé comme ça. » Et on va l'avoir ressenti différemment. Donc, c'est une parole ou une action qui nous semble attaquer notre honneur, notre dignité ou notre image de nous-mêmes. L'offense s'inscrit dans le registre des émotions. elle est de l'ordre du ressenti. C'est ce que je ressens quand tu me dis ça. Chacun peut se sentir offensé pour des raisons différentes, en fonction de notre histoire, en fonction de nos blessures personnelles. Chacun va plus ou moins se sentir offensé. Mais sachez une chose, c'est que l'ennemi nous connaît. Et il sait notre faiblesse, il sait notre histoire. Et il attaquera pas là où vous êtes fort. Il attaquera là où vous êtes faible, de façon à ce que ça vous fasse bien mal. Mais si l'offense est dans le registre des émotions, alors on peut dire cette phrase-là, ressentir n'est pas consentir. C'est un petit jeu de mots, mais vous voyez, ce que je ressens, je ne suis pas obligé de le valider. C'est complètement différent. Parce que ce que l'on ressent, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore guéri en nous. Mais ça ne veut pas dire que pour autant c'est la vérité. Nos émotions nous trompent. Comme disait Denis Morissette, l'émotion, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Nous, chrétiens, nous ne nous laissons pas guider par nos émotions. C'est la foi qui nous guide. C'est la foi qui nous guide. Une parole ou une action ne sera pas interprétée de la même manière suivant chaque individu. C'est en fonction de son histoire personnelle que chacun va réagir à sa manière. Nos conceptions de la vie vont nous amener à créer notre propre justice, notre propre grille d'appréciation, notre grille de lecture des événements. Quand vous avez un accident, par exemple, vous prenez deux personnes et vous les écoutez et vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont bien vu le même accident ? Parce que chacun interprète à sa manière. Notre grille de lecture des événements, des actes ou des paroles de ceux qui interfèrent avec nous. Entre ce que je considère normal et ce que je ne considère ce qui n'est pas normal. Et l'offense va prendre sa racine dans ce que je trouve anormal de mon point de vue. Pour la plupart d'entre nous, on peut dire que voilà comment ça se présente. Chacun va l'interpréter à sa manière et chacun va dire, suivant sa grille de lecture, ce que l'autre a fait mais qu'il n'aurait pas dû faire. C'est pas normal ce qu'il a fait. Ce que l'autre n'a pas fait mais qu'il aurait dû faire. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Ce que l'autre a dit, mais il n'aurait jamais dû dire ça. Franchement, tu n'es pas d'accord avec moi? Alors, on est un peu coincé, obligé de dire peut-être oui, je ne sais pas. Mais en fait, c'est sa grille de lecture. Okay? Ce que l'autre n'a pas dit et qu'il aurait dû dire. Franchement, il aurait dû dire. Il aurait dû me dire merci. Il n'a même pas dit merci. Non. Je parle de mes expériences. Le problème, c'est que nous avons chacun notre propre grille de lecture. Et donc, ce qui est normal pour l'un est anormal pour l'autre. Ce qui est grave pour un n'est pas grave pour l'autre. Et il y a beaucoup de quiproquos qui commencent comme ça. J'ai dit une petite blague, c'était pas grave. Ah si, ce que tu as dit là, c'était très très grave. Ah bon, d'accord. Et voilà, et ça commence comme ça. Et ça, nos interprétations, on peut dire qu'il faut en avoir conscience parce que dans nos échanges, il faut savoir lâcher prise. Hein, parce qu'on n'a pas la même grille de lecture. Et quelquefois, on veut absolument avoir raison. Et là, c'est un discours sans fin qui va amener à des querelles, qui va amener à des disputes, parce que c'est sans fin. Il faut savoir lâcher l'affaire. On ne voit pas tous les choses de la même manière. Vous voulez vous en assurer? Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez? Une dame avec un voile sur la tête? Il y en a une autre qui voit une vieille dame? Est-ce que vous voyez la vieille dame? Ouais. Est-ce que vous voyez la jeune fille? Ok. Qui a du mal à voir la vieille dame? Ok. Qui a du mal à voir la jeune fille? La jeune fille, tout le monde voit la jeune fille? La vieille dame? Vous voyez? À partir d'une photo, oui, regardez. Alors, c'est plus facile comme ça? Vous voyez la vieille dame et vous voyez la jeune fille? Vous voyez un petit peu comment c'est trompeur, hein? Regardez aussi cet arbre-là. Vous voyez cet arbre-là, hein? Est-ce que vous voyez l'arbre? Et vous voyez les visages aussi? L'arbre et les visages. Vous voyez comment notre interprétation... Ah, ah! Comment ça, Jean-Roger, tu ne vois pas la vieille dame là, ici, là?
Si, là, je vois, mais pas dans le dessin là-bas, c'est bizarre.
Parce que ah ouais? Ben, c'est la même pourtant, hein? C'est la même. Regarde, le nez ici, là, regarde le nez, là. Tu vois le nez, là? Regarde le nez. Tu vois le menton, là? Regarde le menton, là. Ah! Il a vu, les yeux se sont ouverts. Donc, Jean-Roger, à partir de là, tu sauras maintenant qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Ah oui, c'est dans les deux sens. Et le problème aussi, tu sais quoi? C'est qu'on est persuadé que notre façon de voir les choses est la meilleure. Et évidemment, l'autre, bah, ce n'est pas de sa faute. Hein. Bon. Et on minimise l'autre. Hein. En réalité, on est complémentaires. Les deux se complètent. Ben oui, parce que là, les deux vont voir, un voit l'arbre, l'autre voit les visages. On est complet. Alors que là, ben peut-être un voit que les visages et l'autre, il voit que l'arbre.
On a une petite expérience d'ailleurs, ça ne m'a pas sur le point, mais sur quelque chose qu'on avait vu. Et puis, au moment de confronter la situation, j'ai dit, ben nous, on a vu comme ça, en fait, elle dit, en fait, elle me dit,
ouais, Jean-Roger, franchement, Jean-Roger.
Et là, je me rends compte.
Ouais.
Ouais. Voilà, donc quand elle a dit ça, j'ai dit, ben voilà, elle est sincère, c'est dit.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai dit, ben si t'as toujours été content, mais je connais. Ouais. Du coup, après, on s'est dit, bon, on va pas continuer parce que là, ça veut dire, il y a des moments.
Ouais. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Par exemple, prenons un exemple que ta femme te parle comme ça, d'accord? Et tu vois, tu comprends pas parce que tu dis, ben si, moi, je vois comme ça, mais l'autre, il dit, mais franchement, Jean-Roger, mais t'es où là, franchement? Et tu vois, ça, rien que ça, déjà. Qu'est-ce que ça t'amène comme pensée? Ça t'amène une certaine dévalorisation. C'est-à-dire, mais Jean-Roger, franchement, t'es pas capable. Franchement, t'es pas capable. Et ça, si t'es pas guéri d'une reconnaissance de ton papa, de ta maman, de quand tu étais jeune, quoi, tu vois, le petit garçon, il est toujours là. Le petit garçon, il meurt jamais. La petite fille, elle meurt jamais. Tu vois. Mais là, s'il n'est pas guéri, ben, il peut prendre la colère. Parce qu'il se sent dévalorisé. Et l'émotion qu'il va ressentir à ce moment-là, ce n'est pas du tout ce que Jeannette essaye de lui faire comprendre. Mais lui, son interprétation, ça va être « Ah ouais, c'est ça. Ah oui, je ne suis pas capable. Ah ouais, c'est ça, je ne suis pas capable. » Et là, il entend son père. « Pas capable. Ah, t'es pas capable. T'es pas capable. Ah, je ne suis pas capable. Eh bien, c'est ça. Eh bien, vas-y. » Et voilà. Et on rentre dans la bagarre. Comprenez? Et là, on ne va pas voir qu'il y a une attaque spirituelle. On va juste dire « Mais pourquoi il me parle comme ça ?» Voilà. Un exemple typique, comment l'ennemi va se servir de nos blessures non guéries avec les émotions qui vont avec, tu vois, pour refaire naître cette émotion et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 25, 30, 35 ans. Mais les émotions sont gravées en nous. Ça, c'est un peu comme les strates dans une roche. On arrive à lire l'histoire, on regarde la roche. Et un spécialiste va vous dire, mais tu vois, il s'est passé telle chose, là, il s'est passé telle chose. Là. Voilà. Et bien, c'est pareil pour nous, les émotions. Ah, mais là, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Et si ce n'est pas guéri, ça remonte à la surface et ça peut être des fois très violent. Parce qu'une émotion, il faut savoir, c'est une, on appelle ça une énergie en motion, comme quelque chose qui est prêt à exploser. C'est une énergie. On le voit bien dans les émotions, il y a des émotions très positives, il y a des émotions très négatives, mais c'est rarement neutre. Hein? Et quand ça explose, sort devant. Alors, le piège de l'offense qu'on va voir ce soir, c'est un petit peu ça, mais on va le détailler. Pour que nous soyons des guerriers d'élite. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et nous ne devons pas réagir comme le monde réagit. On ne doit pas tomber dans les griffes de l'ennemi. et tomber dans les pièges du diable. Et pour ça, il faut comprendre sa stratégie, de façon à ce que petit à petit, quand il va nous arriver des choses semblables, qu'on reçoit la flèche, que le message est là, le message de dévalorisation, le message d'injustice, le message de rejet, d'humiliation, toutes les blessures qu'on a pu voir, quand le message est accompagné là, c'est là qu'il faut tenir ferme. Il y a non, ne pas tomber dans son piège. Non. Dieu m'a guéri de tout ça. Moi, je sais qui je suis en Christ. De façon à ne pas rentrer dans la mécanique de l'offense. OK ? La mécanique de l'offense, c'est un petit peu comme un piège à loup. Oui ? Il y a le piège, il est là. Donc, c'est l'émotion que l'ennemi veut faire naître en vous. Et une fois que vous appuyez, il va placer ça sur votre sentier, d'accord ? Sur votre marche de tous les jours. Et ça, comment ça se traduit ? Ça se traduit avec la personne que vous aimez, qui est proche de vous. Enfin, les personnes, ce n'est pas toujours la même. Il va utiliser quelqu'un pour qui vous avez de l'amour, de la considération. Et puis, si vous faites avoir, vous rentrez dans l'émotion, vous appuyez là-dessus, paf ! Les deux pieds, tac ! Ça se resserre. Et ça rentre sur vous. Et ce qu'on va voir, c'est que spirituellement, ce qui sort là, de chaque petite dent, c'est de l'amertume. Alors, le venin pour la vie terrestre, et nous, spirituellement, de l'amertume. De l'amertume. Et imaginez, c'est comme des seringues. Comme des seringues. Et à chaque fois qu'on murmure, la seringue, elle se vide un peu plus. Et l'amertume, petit à petit, rentre dans votre cœur. C'est exactement ce principe-là. L'offense n'est pas quelque chose de mortel en soi. Si elle reste un piège. Hop, je l'ai vu. Et comment on le voit ? Ça joue à quelques secondes près. Il y a l'attaque qui est là, la réponse de l'autre qui répond mal, qui s'est énervé, ou quoi que ce soit. Hop. Moi, je reste calme. Ah ben bien sûr, ben, il faut. L'ennemi, est quand même, il n'arrive pas avec ses gros sabots. Okay ? Donc, ça peut rester un piège. Mais si nous la prenons et si nous nous en nourrissons, vous savez comment on nourrit ça ? En murmurant. C'est-à-dire que là, on ne dit rien. Ah, c'est comme ça, d'accord. De toute façon, c'est toujours pareil avec lui. Hein. Ah, d'accord. Là. Et on y va. Il y a le moteur qui se met en route. Hein, comme un diesel. Puis il monte en puissance, le truc. Hein, ben, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. On nourrit notre cœur en repassant sans arrêt le film de l'histoire. Alors, nous tombons dans son piège et nous nous retrouvons blessés. Et alors, c'est accompagné d'une couche d'orgueil pour que ça soit bien enterré. C'est-à-dire, bah, t'es blessé ? Moi, blessé, moi ? Certainement pas. Tu crois qu'avec ça, je suis blessé ? Mais tu me prends vraiment pour un rigolo ou quoi ? Il m'en faut d'autres pour être blessé. En fait, la personne est blessée. Mais c'est tellement compliqué de dire à l'autre, ah, tu m'as blessé. Qu'on préfère dire, même pas mal. Mais c'est faux, on est blessé. Et le fait de ne pas reconnaître qu'on est blessé va accentuer le processus. Nous nous retrouvons blessés et on se retrouve prisonniers de cette blessure. Ça peut durer longtemps, vous voyez, une histoire de couple. Une engueulade dans le couple. Ça pourrait s'arrêter tout de suite. Mais bizarrement, ça peut durer des fois toute une journée, des fois plusieurs jours, et des fois, on ne sait même plus par quoi ça a commencé. Tellement que la blessure est venue, et puis ça nous a rendus prisonniers de la blessure, et on est juste en train de dire, faut qu'à payer. C'est juste ça. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, et là on va toujours comparer le terrestre et le spirituel, parce qu'ils sont liés, c'est qu'on se retrouve sous le joug de l'ennemi. Et on ne le sait pas. Un, on ne le sait pas, on est aveuglé par la blessure. Et deux, on croit qu'on a raison. Comme on croit qu'on a raison, on ne peut pas penser qu'on est sous le joug de l'ennemi. On est juste là à dire, non mais oh, Elle va voir un peu de quoi je me chauffe. Ouais. Tu vas voir un peu? Juste. Parce que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est là. C'est lui qui a posé le piège. Et là, puis il fait, oh, t'as vu comment t'as répondu? Non, mais tu vas quand même pas te laisser faire. C'est pas normal. C'est quand même pas normal. Mais réagis, quoi. Mais t'es un homme ou quoi? Tu vas pas te laisser faire. Puis là, t'es là, toi. Ben oui, c'est vrai. C'est pas normal ce qu'elle a fait quand même. Ben oui. Oh, t'es dans ton droit. T'es dans ton droit. Donc vas-y, vas-y, vas-y. Et les aiguilles agissent et ton cœur se remplit d'amertume. Vous vous reconnaissez? Et me dites pas non, parce que sinon vous êtes des sacrés hypocrites. Hein, je vais vous dire. Le piège fonctionne quand il vient ranimer une émotion douloureuse, d'une blessure qui n'est pas encore guérie. Elle est l'équivalent d'une flèche que l'on a reçue en plein cœur et qui vient faire remonter des émotions du passé et nous submerger de douleur. Alors, les risques de conflit ne se font pas attendre. Face à la douleur ressentie et face à la déception qui nous envahit, nous pouvons tomber dans la colère, les insultes, les reproches, les critiques. Briser la relation. C'est le piège diabolique que Satan veut atteindre dans nos vies. Le schéma est classique. C'est toujours comme ça. Et la finalité, c'est de briser la relation. Alors heureusement, il n'y arrive pas toujours, parce qu'on se réconcilie. Si c'est notre femme, c'est notre mari, on va peut-être faire un effort quand même, parce que sinon, on est mal barré. Donc on va faire l'effort. Mais si c'est quelqu'un que finalement, oh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh là Les familles sont brisées. Les familles sont brisées, les couples se séparent, les enfants sont malheureux. C'est la base d'une société. C'est la base de notre vie à nous. Notre vie à nous. Si vous enlevez notre couple, ou vous enlevez les enfants, ou vous enlevez la famille, vous savez quoi? Il n'y a plus de sens. Notre vie n'a plus de sens. L'ennemi a gagné. Donc c'est un enjeu qui nous dépasse. C'est un enjeu qu'à la base, on ne voit pas le danger spirituel. On voit juste que oh, j'ai le droit, mais pas normal ce qu'on a fait quand même, hein? Bon, mais tu vois pas l'enjeu spirituel derrière tout ça. Nous ne voyons pas l'attaque de Satan parce que nous sommes obnubilés par la souffrance, l'injustice qu'on vient de subir. Notre moi est attaqué, pauvre petit moi. Il réclame vengeance. C'est pas normal. Je ne veux pas me laisser faire. Quand même, je vaux quelque chose quand même. Souvent, ceux qui sont offensés ne se rendent pas compte qu'ils se sont fait piéger. Ils se laissent dominer, emportés par leurs émotions, ils deviennent obnubilés par le tort qui leur a été fait. Le fameux « ce n'est pas normal ». Ils ne voient pas le piège qui est devant eux. Grave. C'est grave. Parce que ça va peut-être se réconcilier ou pas. Mais vous savez ce que ça fait dans un couple, par exemple? Eh bien, c'est des coups de canif dans l'amour. Ça commence comme ça. Et au bout d'une centaine de coups de canif, ouais, vous vous retrouvez avec un couple de colocataires. Ils ne sont pas divorcés, pour X raisons, mais le couple est mort. Parce qu'il y a trop de coups de canif. Il y a eu trop de coups de canif. Et franchement, ça m'a épuisé. Je suis fatigué. Ils ne s'imaginent pas un instant que cela peut être une attaque spirituelle visant à détruire la relation. Emporté par l'émotion, on n'est pas en train de dire « c'est l'ennemi qui m'attaque ». Non, on voit juste que « qu'est-ce qu'elle m'a dit encore ce matin ?» C'est juste ça. Ils pensent tout simplement que l'autre n'aurait jamais dû parler ou agir comme il l'a fait. Que cela est injuste. Suivons ma grille de lecture. Quel mouchard, bien anticipé. Regardez avec moi. Le piège est le suivant. Nous aveugler afin que nous nous concentrions sur la douleur que nous ressentons en ressassant le fameux « c'est pas normal ». Voilà le piège. Le piège, c'est sur le « c'est pas normal » au lieu de dire L'ennemi essaye de détruire mon couple. L'ennemi essaye de détruire ma relation. Eh bien, il n'y arrivera pas. Je vais aller la voir. Et je vais lui dire, chérie, excuse-moi. Excuse-moi, je me suis mal comporté. Excuse-moi, j'ai mal parlé. Toutes les relations. Mais là, je prends le truc le plus facile à comprendre dans le couple. Et franchement, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Demander pardon tout de suite. Il n'y a aucun orgueilleux parmi nous. On est des enfants de Dieu quand même. On est des disciples quand même. Chaque fois qu'il y a un problème comme ça, on est le premier à se lever pour aller dire « Excuse-moi chérie, je me suis emballé. Un peu trop vite. » Il faut le faire, mais on le fait Alain. Ah, bravo, Alain. Voilà. Allez, alléluia. Oh, ben c'est bien. T'as suivi les enseignements, toi? Ah. Bon, t'as pas suivi l'enseignement.
Elle a insisté sur un truc et moi, je l'ai marré.
Elle t'a titillé. Elle sait où ça fait mal. Tac, tac, tac.
Et bon, après, je me suis calmé. Enfin, j'ai pas appris, hein, mais j'étais un peu vexé. Et après, j'étais à la voix, j'ai dit pardon, mon fils.
Super.
Mais c'est vrai que le pardon, je pardon.
Ouais. Je demande pardon. Ouais. Et après, l'offense était finie.
Oui, oui, après, je la garde pas, moi.
Ouais.
Je la garde pas parce que c'est pas bon dans le ventre.
Dans le cœur, c'est pas bon du tout. C'est la fameuse amertume. L'amertume, c'est pas une bonne chose.
J'ai été vexé, c'est vrai, mais je le reconnais justement. Ça tombe bien, je suis arrivé en retard, mais il y a un peu de
dingue. Non, mais tu as bien réagi. Hein, parce que, bon, on le verra la fois prochaine sur le pardon.
Je m'ai envoyé un texto, j'arrive à l'hôpital, je vais passer une IRM, c'est pour ça que j'étais en retard. J'ai même envoyé un compote plus truc, un bon message.
Ouais. Amen, amen, bravo Alain. Comme on a vu la dernière fois, on a vu les attentes, comment se préserver des attentes parce qu'on est déçu de l'autre. Hein, c'est lié en fait, hein, tu vois, il y a les attentes, mais il y a les offenses, mais tout ça c'est lié, tout ça, c'est ensemble.
Surtout que nous on connaît Dieu.
Oui, bien sûr. Mais quand l'émotion te prend, tu connais moins Dieu. Bien sûr, en théorie, il n'y a pas de problème. On est tous, le monde bisounours n'est jamais trop loin. Nous, on est parfait, nous, tu vois. Mais c'est bizarre, quand l'émotion te prend, comment tout d'un coup, t'es imparfait. Alors, Alain, je te conforte, tu vois, c'est précisément à ce moment-là que nous devrions faire un stop. La sagesse, c'est, on sent que le moteur s'est mis en route et qu'on est prêt à exploser, c'est là qu'il faut dire, calme-toi, Bertrand. Ça va aller, ça va aller. Tu sais qui tu es en Christ. Ça, le message. Parce que c'est le message qu'on n'analyse pas. Tu comprends? La flèche, elle arrive. Tcha! Ok, elle fait mal. Mais le problème, c'est quel message, nous, on donne à cette flèche-là. Tu comprends? Si tu as une attente avec ta fille, qu'elle t'aime, et puis qu'elle te manque pas de respect, qu'il n'y a pas d'injustice, tu vois? Des attentes un peu inconsciente, comme ça, très lointaine, tu vois. Puis là, elle te tac. Et puis toi, tu dis, c'est ma fille. Regarde le message. Tu vois le message? Ma fille me parle comme ça, à moi, son père. Oh, l'émotion monte. Parce que le message, tu l'interprètes de cette façon-là. Elle est maligne.
Elle est maligne. Elle a su me toucher le cœur.
Ouais.
Moment,
voilà. Mais tu vois, c'est parce que spirituellement, il y a une attente inconsciente. Ta fille, tu t'attendais jamais à ce que ta fille dise ça. On l'a vu la semaine dernière. Il faut la surprise. Tu vois, dans l'attente, c'est quoi? Comment tu interprètes la blessure? Tu vois? Mais bon, on va pas revenir là-dessus. On l'a vu la semaine dernière. Mais là, c'est précisément à ce moment-là qu'on devrait faire un stop. Que nous avons besoin de nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est là que le troisième pilier est important. Tu vois, le troisième, si on le prend dans le sens là, mais sinon, le premier, si on le voit en premier, c'est qui je suis en Christ. De façon à ce que je ne laisse pas le message qui accompagne la flèche me dominer, me venir là suggérer que, eh ben mon gars, t'as pas changé, t'es toujours le même, t'es toujours humilié, t'es toujours rejeté, t'es toujours abandonné. Mais t'as pas de valeur, toi. Tu vois, c'est ça que l'ennemi essaye de faire. Il essaye de ranimer le message de la flèche. Donc, il faut le comprendre, ça. Et ça, en fait, ça te dit si tu es guéri ou pas. Tu vois ? Parce que si l'émotion ne réagit pas, tu vois, ça veut dire que ça y est, tu as fait la paix avec toi-même. Tu as fait la paix avec qui tu es. Et qu'on peut te dire, les hommes peuvent te dire ce qu'ils veulent, les hommes avec un grand H, ta fille, ton épouse, pas le gars qui passe dans la rue. Non, non, tu vois. Et puis, à un moment d'égarement, parce qu'après, il y a papa, excuse-moi, je n'ai pas voulu dire ça, mais non, enfin, tu vois, après ça rentre dans l'ordre. Finalement, ce n'était pas si grave que ça. Mais tu vois, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que le moment T, là, au moment présent, ça vienne bien te faire mal et que le message soit réactivé. C'est ça qu'il veut. Et c'est à nous de dire, le message est plus valable. Le message obsolète. Je sais qui je suis en Christ. Et Christ a tout porté pour moi. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de honte dans ma vie. Il n'y a plus de... C'est fini tout ça. La peur. La peur, oui. Et après, le manque, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de l'amour de Dieu qui vient combler dans nos entrailles tous les manques qu'on a eus, la reconnaissance, la valeur, tout ce qui nous a manqué étant petit, c'est Dieu qui vient combler ça en nous. Et ce n'est pas un être humain, parce que ça n'existe pas. On a vu les citernes crevassées de Jérémie. Un être humain, il va te mettre un petit pansement sur le cou. Il va dire, oh, moi je t'aime, tu sais combien je t'aime. Puis ça nous fait du bien. Mais c'est qu'un pansement. Celui qui a le traitement profond, c'est Christ. Tu vois ? Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons besoin de réaliser notre solidité en Christ. Ce n'est pas une parole, même de ton épouse, même de ta mère, même de ton père, qui doit venir maintenant te déstabiliser. C'est fini ça. Ça, c'était avant d'être en Christ. Maintenant, je sais qui je suis en Christ. Et la vérité, c'est Christ qui le dit. Ce n'est pas un être humain. Un être humain, ça va, ça vient. Un être humain, il te met sur le piédestal et puis 3 secondes après, tu es déjà descendu par terre. Ça arrive souvent, ça. Tout d'un coup, oh, qu'est-ce que t'es... Oh, t'es un mari extraordinaire. Puis 3 minutes après, tu comprends pas, t'es tombé par terre. Faut s'y faire. Qu'en Christ, nous sommes aimés, que nous gardons toute notre valeur et que nous sommes acceptés en Christ, malgré ce que les autres nous font ou disent sur nous. Et c'est à ce moment-là que, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, il y a une seule solution. Il n'y en a pas 50, hein. Il y en a une seule. Vous n'allez pas savoir, là. Ça va rester sans réponse. Pourtant, vous le savez, hein. Je n'ai pas arrêté de le dire. Mais quoi la réponse à ce moment-là ? Non ? Il y a quelque chose à faire. Notre bouclier d'amour ! Mais oui, j'ai décidé d'aimer. Pas avec notre amour à nous. On n'est pas des surnaturels, on n'est pas des surhumains. Quand j'ai mal, ok ? Non, avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui aime sans attendre en retour. L'amour de Dieu qui se sacrifie à la croix sans être sûr que les gens vont accepter son sacrifice. L'amour de Dieu qui se donne. L'amour de Dieu qui nous traverse. Romains 5, 5, par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu qui nous traverse et cet amour qu'on donne, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui nous protège. J'ai décidé d'aimer, malgré la flèche. Et le message, c'est fini ça. Ça, le message, c'est mon problème. Le message, je l'ai réglé avec Christ. Mais la flèche, c'est l'amour de Dieu. Tu me dis une vacherie. Ça peut arriver sur le coup de l'émotion. Et moi, je veux dire, alors, tu sais quoi ? C'est pas grave, moi je t'aime. Voilà. Et terminé ! C'est terminé ! C'est l'antidote sur lequel personne ne peut résister. Amen. 1 Corinthiens 6, 7. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Pourquoi ? Christ à la croix, c'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais il a subi toutes les blessures que nous connaissons. Il les a acceptées pour que nous, il puisse s'identifier à nous et que nous puissions nous identifier dans sa souffrance, dans ses blessures. Donc, une petite flèche, c'est jamais agréable, ok, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. On l'a vu la semaine dernière, on est dans un monde où le mal gît sur cette terre. Donc on sait que le mal est partout. Est-ce qu'on ne peut pas accepter de temps en temps, on a la flèche? C'est pas grave, mon frère. Viens, 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 viens. Et on se fait un petit câlin. Et c'est fini. Parce que si on dit, ouais, la flèche, ah, c'est pas normal. Ah, pourquoi moi? Encore une flèche. Ah, j'en ai ras-le-bol des flèches. Mais t'as pas fini, mon gars. Parce que les flèches, il y en aura tout le temps. Jusqu'à la fin de ta vie. Fais la paix avec les flèches. Ils arriveront de partout. Mais, et de ceux que tu t'y attends pas. T'as rencontré une amie? Super génial. Mais si tu reçois une flèche un jour de ton ami, sois pas surpris. Ça arrivera. Ou peut-être pas si tu passes à travers de la flèche. Et si ça arrive, tu fais quoi? Tu bordes la fille? Terminé là? Terminé? Mais tu vas faire ça tout le temps. Parce que tu vas la voir, tu dis, c'est pas grave. C'est pas grave, ça... Ok, je te pardonne. Quoi, tu me pardonnes? Je me couvre au cours. Non, de l'amour. Je donne de l'amour. Je donne de l'amour parce que, vous savez, le piège que fait l'ennemi, c'est comme pour le pardon. Le piège que fait l'ennemi, il te fait croire qu'elle ne mérite pas l'amour. Il te fait croire. Elle ne mérite pas l'amour. Donc, si elle réagit comme ça, c'est comme si tu as l'impression que, quoi? Il faut que je lui donne de l'amour avec ce qu'elle a fait. Ça, c'est le raisonnement humain. Ça, c'est le raisonnement charnel. Et c'est le raisonnement que l'ennemi veut te faire croire. Et quand même, tu ne vas quand même pas lui donner de l'amour avec la flèche qu'elle t'a envoyée. Ouais. Qu'est-ce que dit Jésus? Aimez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pour toi. C'est pour te protéger, toi. Tu n'as pas compris? C'est pour pas que tu prennes l'offense. Mets ton bouclier d'amour et l'offense, elle n'aura aucun succès avec toi. Dieu nous dit ça pour nous protéger et des autres aussi, quand ils sont sous l'emprise du mal. Et on est tous sous l'emprise du mal à un moment ou à un autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible ne cache rien. Mais quand Paul nous dit le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Et le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Qui dit ça? L'apôtre Paul. Donc, ça veut dire qu'on a tous en nous une capacité à faire le mal. Il faut qu'on vive avec ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'être en dépendance avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, pour calmer le mal qui est en nous. Vous comprenez ça? Tant que je suis dépendant de Jésus, le Saint-Esprit est là, le fruit de l'Esprit est là, et c'est l'Esprit de Jésus qui agit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, ça va bien. Et le jour où vous n'êtes plus en relation avec Dieu de la même image que le cep et le sarment, ben c'est votre nature qui reprend le dessus. Et là, attention, ça peut barder. Ben ouais, c'est pas bon quand la vieille nature reprend le dessus. Ben non. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est sur lui qu'on se décharge de tous nos soucis, de nos blessures, car lui-même prendra soin de vous. Soyez sobre, veillez. Veillez, ça veut dire que l'ennemi, lui, il est tout le temps là. L'ennemi, il est prêt à n'importe quel moment à lancer la flèche. Il faut toujours être sur nos gardes. C'est pour ça qu'on est une armée. C'est pour ça qu'on parle de guerre spirituelle. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Est-ce que c'est ton tour aujourd'hui? Ah, tu t'y attends pas aujourd'hui, hein? Tiens, pas la flèche. Oh, n'y attendez pas. Elle fait mal. Bouclier, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. T'as reçu la flèche ce matin? Ok, mais il y en a plein dans le monde qui ont reçu une flèche ce matin. C'est pas que toi. C'est la vie sur cette terre. D'accord? Il faut vivre avec la réalité de ce monde-là. Et la Bible ne nous cache rien. Donc quand je reçois la flèche, ce n'est pas le moment de faire Calimero. Ce n'est pas le moment de faire « Oh, mais pourquoi moi? Encore une flèche, mais j'en ai marre des flèches, franchement. Quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Ça va arrêter, Seigneur? Arrête les flèches !» Illusion ? Bisounours ? Non ! C'est là de dire, waouh, qu'est-ce que la Bible m'a appris ? Qu'est-ce que je retire des enseignements de Jésus ? Et comment je réagis ? Bouclier de l'amour. Et dire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, la flèche. Elle arrivera toujours, la flèche. Eh oui, ben oui. Et il n'arrête pas, tu vois, il est là, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, c'est pas une petite souris, hein, c'est pas un petit chat, cherchant qui il va dévorer. Nous voyons dans la Bible l'importance que Jésus apporte aux offenses, puisqu'il a enseigné la prière à ses disciples en mettant l'accent sur l'importance de pardonner les offenses. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est très important. C'est très important. Parce que l'accès, l'offense, elle a accès direct à ton cœur. Et ton cœur, Dieu t'a dit, garde-le ton cœur. Protège-le ton cœur. Car de lui coulent les sources de la vie. Si tu ne veux pas que la vie s'arrête là, que la vie commence à devenir un espèce de marécage là, tu vois, que la vie ne coule plus en toi pour aller se propager dans ceux que tu aimes, dans les perdus, il faut que tu gardes ton cœur. Et pour que tu gardes ton cœur, il ne faut pas que l'offense rentre dans ton cœur. Il ne rigole pas le Seigneur là-dessus. Il y a une prise de conscience à avoir. Notre réaction aux offenses va déterminer la qualité de ta vie. Tu comprends ça? Comment tu réagis à l'offense, ça va déterminer la qualité de ta vie. La guérison de tes blessures. Et ça va avoir un impact sur ta croissance spirituelle. Ce qu'on voit ce soir là, ce n'est pas une petite affaire. Hein. Ce n'est pas une petite affaire. C'est un gros truc. Tu vois, c'est tes relations humaines. Tes relations avec tes proches. Les relations avec ton mari, la relation avec ta femme, la relation avec tes enfants, tes parents, tes proches, ceux en qui tu as investi de l'amour, ceux en qui tu crois que là, avec eux, eh ben, tu en as besoin, tu peux pas échapper. Tu vois? Ça va dépendre de ce qui va sortir, ta manière de te comporter, ta réaction, ça va dépendre de la qualité de tes relations, la qualité de ta vie. Parce que les relations, c'est la vie. C'est fondamental ce qu'on est en train de voir ce soir. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est de dire, waouh, je sais comment l'ennemi agit avec moi, je ne me ferai plus piéger. Là, c'est marqué Amen. L'offense, c'est l'arme principale du diable. Mais au final, c'est nous qui décidons si cette arme va être efficace ou non. Lui, il a son arme, ok ? Mais elle peut être inefficace avec la réaction qu'on va avoir. Le pouvoir est en chacun d'entre nous par la puissance de celui qui agit en nous. Cette puissance de dire stop, je décide d'aimer. C'est ma décision. Ce qu'on a vu la dernière fois sur ce bouclier de l'amour. Qui décide qui tu aimes ? Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu as pris cet engagement. Et alors, c'est la flèche qui décide que tu n'aimes plus ? C'est l'autre qui décide que tu n'aimes plus ? Ou c'est toi qui restes maître de ton destin ? Et tu dis, non, j'ai décidé d'aimer. C'est mon engagement. Alors, je continue d'aimer. Est-ce que tu es libre de tes décisions ? Ou est-ce que tes décisions sont aléatoires et vont être en fonction de la réaction de l'autre, de comment il va réagir ? Est-ce que tu deviens esclave de l'autre ? Ou est-ce que tu restes libre? Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous le sommes. Nous sommes libres. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes adoptés par notre Papa. Et nous avons le Saint-Esprit qui agit en nous. On n'est pas capable de réagir autrement? Si. Ça dépend que de nous. C'est un choix. Le pouvoir étant chacun d'entre nous par la puissance de celui qui agit en nous, c'est nous qui allons nous rendre vulnérables ou non face à ce piège. De notre manière de réagir va dépendre l'issue du combat. En définitive, être offensé ou blessé, c'est le même mot. Ou ne pas l'être est un choix qui nous appartient. Amen. C'est un choix. Il y a la flèche. Mais est-ce que tu gardes la blessure? Est-ce que tu gardes l'offense? Ça, ça t'appartient. Tu ne peux rien faire contre la flèche. Puisque c'est la façon de faire de l'ennemi. Il t'enverra des flèches tout le temps. Et ta façon de réagir va faire la différence. Quelle est notre arme principale? On l'a vu, c'est l'amour de Dieu. Notre identité en Christ. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes amour. Amour agapé. Ce n'est plus qu'un être humain dit, pense, agit envers toi qui détermine qui tu es. En réalisant que seul Dieu a le pouvoir de nous définir, nous ne permettons plus aux hommes de le faire. Je décide de continuer à les aimer comme ils sont. C'est mon appel, c'est ma décision. Amen. Je reste dans mon appel, celui d'aimer mon prochain, parce que je suis aimé de Dieu. L'autre n'a plus le pouvoir de décider pour moi si je continue de l'aimer ou pas. C'est ça la vraie liberté. Et le diable ne peut plus utiliser l'offense comme une arme de destruction pour mes relations. En continuant d'aimer de l'amour de Dieu, je décide de garder ma paix et je me fortifie dans qui je suis. Amen. C'est une décision qu'on prend, que ce soir tu prends, et que petit à petit tu vas aiguiser ça, que tu vas devenir fort dans cette façon de réagir. Dieu te rendra fort dans cette façon de réagir. Tu n'as plus à être, comment on pourrait dire, tu n'as plus à être fragile face aux flèches de l'ennemi. Sinon, c'est ta vie entière que tu vas subir les flèches. Et tu ne grandiras pas en Christ. Tu ne goûteras pas à ce que Dieu a dit pour toi. Je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Cette vie de paix, cette vie d'amour, cette vie où l'ennemi n'a pas de prise sur toi, où tu pardonnes aux autres et où tu aimes ton prochain et que tu préfères mettre en premier l'amour parce que tu ne veux pas que l'offense ait une prise sur toi. Amen. La difficulté de résister à l'offense, elle réside dans le fait que l'ennemi va vouloir jouer avec tes émotions. Souvent, je dis le syndrome du bisounours, c'est pas normal. Il va essayer de nous atteindre en utilisant quelqu'un qui, dans notre imaginaire, ne pouvait pas faire ça. Dans notre grille de lecture, c'était impossible que la personne fasse ça avec moi. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il va essayer de nous atteindre en utilisant quelqu'un dont nous ne pouvons pas croire qu'il puisse faire ça. C'est quelqu'un qui nous est cher. Et écoutez ça, plus la personne sera proche de toi, proche, plus le piège est vicieux et plus il aura de la chance de fonctionner. Il veut nous prendre par surprise, jouer de notre incrédulité et de nos sentiments, actionner le sentiment de trahison, nous faire ressentir l'injustice. Tout ça, c'est ça sa stratégie. Faut que tu sois surpris. Faut que ça soit injuste. Faut que tu te dises, je ne méritais pas ça. Là, si tu arrives à ce point-là, tu es en danger. L'ennemi, il veut nous faire le plus de mal possible à travers notre déception. Et on le voit dans David, hein, dans le psaume 55. Regardez ce que le cri de David, c'est vraiment ce que je viens de dire, le cri de David. Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore. Je le supporterai, ça. Ce n'est pas celui qui me haït qui s'élève contre moi. Je me cacherai de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon confident. Ça ne pouvait pas arriver. Je t'ai tout confié de ma vie. Je t'ai tout dit sur moi. Tu ne pouvais pas me trahir. Vous voyez, David s'est fait avoir. Toi que je connais bien, ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Waouh, le monde bisounours, c'était magnifique. On allait à l'église, il n'y avait que des gens qui me veulent du bien, aucun sentiment de jalousie, pas une once de mal. Oh, j'arrive dans l'église, c'est merveilleux. Oh, j'entends la musique, qu'est-ce qu'on est bien. Alléluia, tout le peuple de Dieu est là, c'est merveilleux. Est-ce que c'est la réalité? Eh ben non, c'est pas la réalité. Et on fait quoi? On quitte l'église? Ben je te dis, dans la prochaine église, ça sera pareil. Alors tu fais quoi? Accepte les gens comme ils sont. Et toi, travaille sur toi. Travaille sur toi. Notre faiblesse se trouve dans le fait que nous avons une conception de l'amour erronée. Nous pensons à tort que, puisqu'il m'aime, il ne peut pas me faire de mal. C'est tellement logique. Puisqu'il m'aime, il ne peut pas me faire de mal. Ni en parole, ni en action. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. La Bible nous enseigne la réalité du cœur humain. Et c'est à nous de ne pas être naïfs. C'est à nous d'être sérieux avec la parole de Dieu. Et c'est à nous d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Les armes de l'amour. Il n'y en a pas d'autres. On n'est pas avec les armes de l'épée ou de je ne sais pas quoi, ou tu en prends ça. Non, on n'est pas dans ces armes-là. Ça, c'est des armes charnelles. Nous utilisons des armes spirituelles. Et les armes spirituelles, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une arme. Amen. Ah, celle-là, vous allez l'aimer, regardez. Oh, le monde bisounours. Le syndrome. Là, on est surpris. Non, pas ça. Difficile pour nous d'admettre qu'il nous faut vivre avec cette réalité, que les personnes qui sont les plus proches de nous, que nous aimons et qui nous aiment, vont sans doute, peut-être, un jour nous décevoir. Si tu fais la paix avec ça, tu auras fait un grand bout de chemin dans ta vie. Je te dis. Et tu pourras encore plus aimer les gens qui sont avec toi. Parce que tu les aimeras avec un bon mobile. Tu les aimeras pour ce qu'ils sont. Et tu ne les aimeras pas parce qu'il y a une attente cachée. Je veux que tu réagisses comme ça quand ça va mal se passer pour moi. Tu comprends? L'amour de Dieu. Encore une fois, Jésus sacrifie sa vie à la croix sans attente. Le mobile était pur. Il donne sa vie et il te laisse le libre choix. Accepte ou accepte pas. Mais il n'a pas dit « Eh oh les gars là, je vais à la croix, je vais en baver. » Mais après, là, vous avez intérêt de me suivre, hein? Que je ne fasse pas ça pour rien. Hein? Ça, c'est l'être humain. Mais Christ nous aime d'un amour parfait. Amen. Peut-être que tous ne te décevront pas, j'espère. Mais la question est, sommes-nous prêts? Est-ce qu'on est prêt à accepter si cela arrive? Réfléchissons un instant. Est-ce qu'on est prêt à accepter que les gens en qui nous avons le plus confiance, nous trahissent un jour. Ben, j'espère que l'enseignement de ce soir va porter du fruit et que vous serez plus surprise. Après, qui est une déception sur le coup? Normal, on n'est pas des robots. D'accord? On est des êtres d'émotion. Mais attention, attention à la réaction juste derrière. Il faut que tu ne te fasses pas avoir par l'ennemi. Il faut que tu penses qu'il y a une attaque spirituelle derrière tout ça. C'est là-dessus que tu dois prendre de la hauteur. Si nous sommes conscients que cela peut arriver, nous enlevons à l'ennemi l'effet de surprise. Eh oui, si je sais que ça peut arriver, quand ça va arriver, eh ben je serai moins surpris, puisque maintenant j'en ai conscience. J'arrête de vivre dans un monde de bisounours. Et l'effet de surprise dans un combat, c'est essentiel. Si vous avez, quand vous regardez des guerres, vous savez que c'est l'effet de surprise qui a fait la différence pour la victoire. Et l'ennemi, il a besoin de cet effet de surprise. Il veut que vous soyez là. Non, non, pas lui, non, pas elle. Il a besoin. Mais si vous dites, ouais, ça pouvait arriver. Et moi aussi, ça pouvait m'arriver un jour aussi. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pierre. Eh oui. Et on est appelé à faire comme Christ à la croix. Qu'est-ce que Christ a dit à la croix? Après avoir bien souffert, après avoir vécu l'injustice, après avoir été trahi. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce que elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et je peux t'assurer que c'est vrai. À moins que tu tombes sur des gros malades mentaux. Mais souvent, c'est des gens, et sur le coup, ils ont fait n'importe quoi, ils ont dit n'importe quoi. Donc, si tu ne veux pas que la flèche te fasse mal et que le message, que tu ne prennes pas le message de ta manière à toi, père, pardonne-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que le jour où ça t'arrivera, et ça t'arrivera, t'aimerais bien qu'on te dise ça. T'aimerais bien que tu sois traité aussi comme ça. Si nous sommes conscients que l'ennemi peut frapper à tout moment, alors nous serons capables de garder la porte de la déception fermée. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est la porte de la déception. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Une porte, la porte de la déception, quand on l'ouvre, on sait qu'on l'ouvre, mais on ne sait pas jusqu'où elle nous emmène. Garder la porte de la déception fermée, c'est garder notre cœur, c'est le protéger pour que les sources de la vie continuent de couler. Deuxième prise de conscience, il n'y a pas que ceux que vous aimez qui peuvent profondément vous blesser. Plus les attentes inconscientes sont élevées envers quelqu'un, plus la déception sera grande. À l'instant même, est-ce qu'il y a dans votre vie une personne dont vous êtes certain que jamais elle ne vous trahira ? Plus la relation est intime avec la personne, plus le piège pourra être efficace. Plus la surprise est grande, plus l'émotion sera intense et plus la relation aura du mal à survivre à cette attaque diabolique. Paul connaissait bien les ruses du diable. Il voulait mettre en garde ses frères et sœurs. Dans Éphésiens 6:12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les êtres humains. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il nous avait avertis. Derrière tout ça, il y a une histoire spirituelle derrière tout ça. C'est la puissance du péché dans chaque être humain qui le pousse à être maladroit, à blesser et parfois à être méchant. Ne nous trompons pas de cible. Soyons spirituellement matures en suivant l'exemple de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais posons-nous la vraie question. Voulons-nous continuer à reproduire les mêmes erreurs et être malheureux toute notre vie? À partir de ce soir, tu as le choix pour ton avenir. Sur le champ de bataille des relations, soit tu combattras et tu sortiras vainqueur par la puissance de celui qui agit en toi, ou soit tu accepteras le piège de l'ennemi et tu seras vaincu une fois de plus. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Dans Deutéronome, Dieu nous dit ceci. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, et le bien, pardon, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas rentrer en possession. » Il nous met le choix devant nous. Comment tu vas réagir à partir de ce soir, maintenant que tu as reçu les prescriptions de Dieu? Comment tu vas réagir? L'enjeu, il est devant nous. L'offense a la particularité de développer chez l'être humain un poison mortel qu'on appelle l'amertume. Et l'amertume, c'est le cancer de l'âme. Il vient endurcir ton cœur. Il le rend insensible à l'amour. C'est un poison qui se distille dans ton âme comme un goutte à goutte. Il te tue à petit feu sans que tu en sois conscient. Et il vient avorter le plan de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens, sans le savoir, ont laissé l'amertume envahir leur cœur. Et il y a des parties de leur cœur qui est anesthésiée, qui est insensible. Ils vivent, mais il y a quelque chose en eux. Il y a des parties qui sont mortes en eux. La Bible nous avertit à ce sujet. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Refusez l'offense. Comment ? En pardonnant et en continuant d'aimer la personne telle qu'elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit. C'est possible. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus pour changer tout ça. Pour conclure, je voudrais m'adresser à toi qui s'est fait piéger. On va conclure là-dessus. On va rentrer dans un moment de repentance pour que tu puisses tout réaliser ce qui a été dit ce soir et demander à Dieu pardon et de changer de direction. C'est-à-dire, Seigneur, je me suis fait avoir. J'ai pas assez veillé et j'ai laissé l'ennemi rentrer dans mon cœur. Tu t'es fait piéger par le diable. Et tu sens l'amertume dans ton âme parce que tu es déçu par un ou plusieurs de tes proches. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être des proches. Tu vis, mais tu sais que l'ennemi a gagné du terrain et que ton cœur n'est pas en bonne santé. Il a réussi à voler ta joie. Il a réussi à voler ton enthousiasme. Et le masque est de plus en plus dur à porter. Tu portes un masque comme si tout allait bien. Mais en réalité, il y a des parties en toi qui sont attaquées. Dieu te parle ce soir. Il te dit ceci. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ce soir, tu peux vivre la délivrance à laquelle tu soupires depuis tellement de temps. Et tu aspires à retrouver le feu du premier amour tellement tu aimes le Seigneur. Celui qui continue malgré tout à prendre soin de toi. Chaque jour, il veut t'enlever ce soir le poids de la culpabilité et de la honte que l'ennemi a réussi à faire peser sur toi. L'amertume a endurci ton cœur et t'a mis dans une prison spirituelle afin que tu n'aies pas accès à la vraie repentance. Voici l'ordonnance de Dieu pour toi ce soir. Achetez l'or de Dieu. Achète de l'or à Dieu. C'est quelque part, c'est une image qu'on va voir ce soir. Et on trouve ça dans l'Apocalypse. Jésus a dit d'acheter chez moi l'or éprouvé par le feu. On va faire le parallèle avec l'or et notre cœur. L'or éprouvé, il est mou, malléable, exempt de corrosion et d'autres substances. C'est quand l'or est mélangé à d'autres métaux comme le cuivre, le fer, le nickel, etc., qu'il devient dur, moins malléable et plus corrosif. Et ça s'appelle un alliage. Plus le pourcentage de métaux étrangers est élevé, plus l'or devient dur. À l'inverse, plus le pourcentage de l'alliage est bas, plus il est mou et malléable. Nous pouvons voir immédiatement le parallèle, un cœur pur est comme de l'or pur, doux, tendre, malléable. Toutes nos blessures endurcissent nos cœurs, tout comme les alliages durcissent l'or. Ceci diminue ou ôte la tendresse, créant une perte de sensibilité. Cela bride notre capacité à faire la volonté de Dieu. Nous restons dans une prison spirituelle. Le premier étage de raffinage de l'or est de moudre en poudre et de le mélanger à une substance appelée fondant. Le mélange est ensuite placé dans un four où il est fondu sous une chaleur intense, représente l'épreuve. Les alliages et les impuretés sont attirés par le fondant et remontent à la surface. L'or, qui est plus lourd, reste au fond. Les impuretés, les scories, telles que le cuivre, le fer, le zinc, mêlées au fondant, sont ensuite enlevées, produisant un métal plus pur. Alors le parallèle, ce soir, avec ton cœur. De la même manière, Dieu éprouve par des afflictions, des épreuves, des tribulations, un passage par le feu, dont la chaleur sépare les impuretés, telles que la vengeance, le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas être aimé, déconsidéré. Il nous faut voir notre vraie condition. Dans Apocalypse 3:18, il dit ceci, on l'a vu, « Je te conseille d'acheter chez moi du collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois, voir ta véritable condition. » C'est seulement de cette façon qu'on va pouvoir se repentir. Seulement en voyant comment nous en sommes arrivés là, qu'on va pouvoir dire « c'est de ma faute aussi, je me suis trompé, j'ai cru dans certaines façons, je me suis fait avoir par ma grille de lecture, je me suis fait avoir par ma propre histoire, par mes émotions, par mes attentes irréalistes. » C'est ça qu'on a besoin de repenser. Ce soir, entre dans la vraie repentance. Arrête de blâmer les autres, de mettre la faute sur tes proches. Jésus te parle et voici ce qu'il dit. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors seulement tu pourras enlever la paille dans l'œil du voisin ou de ton proche. Reconnais ce soir que tu n'as pas toujours regardé à ce qu'il n'allait pas en toi et que tu as préféré regarder aux défauts de l'autre, à ses fautes, ce qui a évité de te remettre en question. Ce n'est pas une culpabilité ce soir que tu dois recevoir, c'est une vraie repentance. Il n'y a pas de culpabilité. Hein. C'est que l'ennemi arrive, des fois, à prendre le dessus sur nous. Mais on a besoin d'en prendre conscience. On a besoin de dire, Seigneur, je veux que mon cœur retrouve ce feu du premier amour. Que mon cœur soit débarrassé de toutes ces blessures que j'ai pu accumuler au cours de ma vie, dans les relations les uns avec les autres, et que mon cœur s'est endurci. En agissant comme cela, tu as permis à l'ennemi de déverser dans ton âme le poison de l'amertume. Et ce poison a fait son œuvre. Il a rendu malade ton cœur et tu as vécu jusqu'à ce jour une souffrance terrible que personne ne peut soupçonner. En restant offensé, tu as permis au plan de l'ennemi de te soustraire à la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 4, 29, il est écrit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans Romains, il est écrit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Laissons le Seigneur agir avec ceux qui nous ont fait du mal. Dans 1 Corinthiens 6, 7, Paul dira ceci, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffriez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? On a vu ce verset auparavant. Est-ce qu'on n'accepterait pas de souffrir aussi comme Christ, que l'injustice fait partie de ce monde, que les blessures font partie de ce monde? Accepter de souffrir pour un peu de temps, mais bien réagir pour que les souffrances, les blessures ne fassent pas des dégâts dans notre cœur. Dans Pierre, il dit ceci, « C'est ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » On a besoin de rester dans la volonté de Dieu. On a besoin d'être des chrétiens engagés. On a besoin de ne pas être dans une doctrine ou de bisounours où on vient et tout va être magnifique. Non, le Seigneur n'a jamais dit ça. Il a dit, toi, suis-moi. Et en suivant le Seigneur, on savait que le chemin était rocailleux. On savait que le chemin était étroit. Ce n'était pas l'autoroute pour nous. Mais on savait que c'était la voie du salut. On savait que c'était la vie. Mais est-ce qu'on est prêt à en accepter aussi les conditions aussi qu'il nous faudra souffrir avec le Christ? Et encore, nous, on est protégés, on peut le dire. Parce que quand on regarde la carte de la persécution dans le monde, y a des frères et sœurs qui souffrent vraiment pour le Christ. Nous, oui, on souffre, mais franchement, il y a une marge. Le pardon et l'amour font oublier les torts, afin qu'il y ait de l'espoir pour l'avenir. C'est le chemin de l'humilité, de l'abnégation, qui mène à la guérison et à la maturité spirituelle. L'orgueil ne peut pas emprunter ce chemin. Il n'y a que ceux qui désirent la paix au risque d'être rejetés, de subir l'injustice, d'être malmenés à l'image de Christ qui pourront le faire. Et c'est le chemin qui conduit à la vie. Dans Hébreux, il est écrit ceci, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. » Que vous ne vous laissiez point, lassez point, pardon, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. À l'instant même, Dieu t'appelle à une vraie repentance. Prends maintenant la décision de pardonner à tes proches afin de reprendre le chemin de la vie. Décide de les aimer comme Dieu les aime, par sa puissance qui agit en toi. Il te rend capable ce soir de reprendre le bon chemin, de répondre à nouveau à son appel, celui de nous aimer les uns les autres. Amen. Amen, amen, amen. C'est ce soir, on va prendre un temps. On va prendre un temps maintenant pour que, jusqu'à maintenant, comme tout le monde, tu as subi des injustices, tu as subi du rejet dans ta vie, des incompréhensions, des choses qui t'ont fait mal. Et tu n'as pas réagi de la bonne manière parce que tu ne savais pas encore toutes ces réalités spirituelles. Et tu t'es fait avoir par l'ennemi. Ce soir, il faut qu'il y ait un avant et un après. Ce soir, il faut que tu comprennes que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça a besoin d'être nettoyé pour que tu repartes sur des bonnes bases et qu'à l'avenir, tu ne te fasses plus piéger par l'ennemi. Qu'à l'avenir, tu puisses réagir comme Dieu t'appelle à réagir, avec le bouclier de l'amour et de pardonner à ceux qui te blessent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que tu arrêtes de te laisser emporter par tes émotions. Que tes émotions ne doivent pas conduire ta vie, mais que c'est la foi qui doit conduire ta vie. Une prise de conscience. Et quand les flèches arriveront, pense à cette prise de conscience de dire « Calme-toi Bertrand, il n'y a pas le feu. Chut, tout va bien. Jésus est là. Viens dans le refuge de ton papa, il t'attend. Et là, tu viens recevoir tout l'amour que tu as besoin pour bien réagir. Et ainsi, tu protégeras tes relations. Bien sûr, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne parle pas de relations toxiques. C'est un autre domaine. On parle de nos relations de tous les jours. On parle des relations avec nos proches. Comment garder nos relations avec nos proches. Comment rétablir les relations avec nos proches. En faisant un mea culpa. En disant peut-être que j'avais trop d'attentes. Peut-être que j'ai cru que. Mais Seigneur, aide-moi à travailler sur moi. Et surtout, ce soir, de rentrer dans cette repentance où tu dis, Seigneur, je change de façon de voir les choses. Je me repens parce que j'ai mal agi. L'autre a sans doute mal agi aussi, mais ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de garder ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui coulent les sources de la vie. Ton problème ce soir, c'est d'enlever l'amertume. Et ça, c'est Jésus qui peut le faire. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. On va prendre 3-4 minutes pour que le Saint-Esprit agisse dans ta vie et que ce soir, il y ait une vraie délivrance. Que ce soir, l'amertume soit ôtée de toi. Demande à Dieu d'ôter l'amertume qui a pris sa place dans ton cœur. Sois honnête. Regarde dans ton cœur les endroits où l'ennemi a gagné un combat. Et ce soir, demande à Dieu de rétablir tout ton cœur entièrement, qu'il n'y ait plus un accès au diable, qu'il n'y ait plus un accès à l'ennemi, et que Dieu te redonne tout ce cœur parfait qu'il t'avait donné, ce cœur malléable, ce cœur plein de tendresse, ce cœur qui entend la voix de Dieu et qui obéit. Voilà l'enjeu pour ce soir. On va écouter un petit chant, et chacun va parler à Dieu avec ce qu'il a besoin de renouveler. Les personnes qui lui ont fait du mal, peut-être qu'ils sont toujours en relation, mais avec qui maintenant il y a de la distance? Avec qui maintenant l'ennemi a réussi à créer une distance? Et pourtant, il serait sain pour toi de retrouver une vraie relation. Il faut qu'il y ait un changement dans ta life. Et ça, c'est le Seigneur qui peut faire.